Le dévoilement de Dieu numéro 85. La source de la vie de la semence. Les deux arbres. Le 10 mars 2019. Brian Kozurek. Pasteur. Ce matin, nous entrerons dans une étude sur la source de vie des deux vignes ou des deux formes de vie des semences et la différence entre la source des deux semences, qui constitue les deux natures des jumeaux ou des deux vignes. Je pense que cela sera une très longue mini-série, car il y a tellement d'informations dans la Bible et le message que je veux vous présenter autant que possible de ce côté de la résurrection. Dimanche dernier, nous avons commencé à examiner la principale différence entre les deux vignes ou les deux formes de vie des semences, la semence de Dieu et la semence du serpent, et nous avons découvert que frère Branham a mis en évidence, dans Dieu dévoilé, la capacité de la semence de Dieu d'entendre, de reconnaître et d'agir en fonction de la parole de l'heure. Nous avons découvert cela au paragraphe 188 à 195 de Dieu dévoile. Au pp 188 frère Branham dit, remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la parole promise pour cet âge-ci, doit aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d'église qui aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu'il en Esther, à cause du voile humain. 189 Esther pour cette raison qu'ils n'ont pas pu le voir. Puis au pp 192 il dit, mais encore aujourd'hui, il n'est voit pas cela. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré cette tradition, et il a exposé la parole pour cet âge au regard de tous, et ils n'aimis savent toujours pas ce qu'il en Esther. Ils n'aimis savent vraiment pas ce qu'il en Esther. C'est tellement simple. Voyez-vous? C'est tellement simple. Vraiment. C'est tellement étranger aux choses du monde. Maintenant, reprenons la lecture aux pages 194 alors. Remarquez. Le voile. La chair humaine. Non. Donc, les gens qui aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Ces gens religieux attachés à leur tradition ne pouvaient pas voir ce qu'il en était, parce qu'il était un homme. Pourquoi? Cette chair humaine qui cache à Dieu. 195 Or, s'il avait été une grande colonne de feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande colonne de feu était descendue et leur avait montré ce qu'il était cette grande colonne de feu, ça, ils l'auraient peut-être cru, si Jéhovah avait circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu'il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens intelligents, sages, il s'est simplement révélé tel qu'il l'avait promis à Moïse. Voyez-vous, je leur parlerai par un prophète. Et il était, fils de l'homme, un prophète. Et certains l'ont reconnu, environ 0,1% du monde l'ont cru, les autres, non. Mais c'était ce qu'il était quand même. Nous voyons ici qu'il y a certaines personnes qui ont capacité de voir Dieu à travers le voile de la chair, tandis que d'autres sont entravés par la chair. Certains l'appellent du diable tandis que d'autres vont à l'autre extrême et font de ce voile de chair Dieu. Cette capacité n'est à donner qu'aux fils de Dieu. Eux seuls sont capables de convenablement scinder Dieu du voile. Jean 1.10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Cela parle de Dieu lui-même qui a fait le monde. Et le monde n'a aimé la point connu. Ce mot connu fut traduit du mot grec ginosko, qui signifie une connaissance expérientielle ou empirique. Connaître par expérience. Ce mot ginoskonemi signifie pas avoir une connaissance intellectuelle, et n'a rien à voir avec le mental, mais c'est de connaître grâce à une expérience. Marie a utilisé le même mot lorsque l'ange lui a dit qu'elle allait avoir l'enfant Jésus et elle a dit à l'ange dans Luc 1.34 comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai mis qu'en est point d'homme. Sester, le même mot grec gynosko, et vous pouvez voir qu'elle parlait de comment puis-je avoir un enfant n'ayant jamais connu ou expérimenté d'homme. Nous poursuivrons donc la lecture de Jean 1 et nous reprendrons au verset 11 à l'Esther venue chez les siens. Et les siens n'aimés l'ont point reçu. 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, exousia, la capacité de prendre la bonne décision, de devenir enfant de Dieu. Or, cette capacité de devenir n'est-elle pas une capacité comme au pouvoir de l'homme? Comme si vous avez une capacité de changer d'espèce, de changer d'un humain un fils de Dieu. Le mot devenir fut traduit du mot grec gynomé, qui parle du gène de la semence, et cela signifie grandir dans ce que vous avez été ordonné par le gène de la semence. Et il est directement lié au prochain verset qui dit, lesquels sont nés, 13 noms du sang. Ce n'est pas une chose physique, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas une chose mentale, ni de la volonté de l'homme. Ni par le désir de la pensée et du cœur, mais de Dieu. Montrant que c'est une chose souveraine que Dieu fait. Et vous n'avez rien à voir avec cela. Sauf que cela a à voir avec vous et avec ce que vous étiez prédestiné à devenir. C'est ainsi que vous pouvez devenir ou grandir dans la condition d'un fils. 14 Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Doxa. Ses opinions, ses valeurs, et ses estimations, une gloire, doxa, les opinions, les valeurs, et les estimations, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi, il faut un Fils de Dieu pour reconnaître la doxa de Fils de Dieu. Écoutez, cette capacité à le recevoir est due au fait que vous êtes également un Fils de Dieu. Et donc, quand vous avez vu la doxa exprimée dans le Fils premier-né, vous l'avez reçu parce que c'est ce que vous savez être juste par la nature même d'être une semence de Dieu. Par conséquent, pour examiner correctement la différence entre les attributs des deux semences que frère Branham mentionne au paragraphe 188 à 195 de Dieu de voile, nous devons comprendre ce qui distingue la semence de Dieu de la semence du serpent, ou la semence de Satan. Et pour ce faire, nous devons remonter aux sources de ces deux courants de vie, et donc à la source de tous les attributs et caractéristiques qui identifient ces deux différentes vies de semences, que nous étudierons en montrant la nature de la vie qui habite en ces deux semences. Dans cette étude, nous commencerons par examiner ce dont parle Jésus concernant les semailles de la bonne semence et celle de la mauvaise semence dans le même champ, dans une parabole qu'il raconte dans Matthieu. Pour commencer, allons au meilleur exemple de ces deux types de semences concernant les deux vignes ou les deux semences alors que nous lisons à ce propos dans Matthieu 13.24 il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28 Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez mis des racines en même temps le blé. 30 Les écroches tremblent l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Remarquez que Jésus souligne le fait que deux espèces très différentes seront plantées côte à côte dans le même champ. Le champ représente le champ missionnaire, l'église, et l'ensemencement est d'abord fait par le propriétaire du champ, le Fils de l'homme, et ensuite son ennemi entre dans son champ et sème sa semence dans le même champ. Remarquez deux semences mais avec une vie de semences différentes. Les faits de cette parabole sont les suivants. 1. Il y a un champ, champ missionnaire, dans lequel les deux semences sont plantées. Lequel champ missionnaire représente l'Église. 2. Il y a deux semeurs de semences. Donc deux sources de vie, le propriétaire du champ et son ennemi. 3. Il y a deux semences semées. Identifiant deux espèces différentes de vie, le blé et l'ivraie. 4. La semence de l'ivraie terre plantée par une intrusion. Mais terre autorisée à grandir à côté du blé jusqu'à la récolte. Pour le bien du blé. Jusqu'à ce que le blé soit assez mûr pour supporter une séparation. 5. La séparation esther toujours une guerre. 6. L'ivraie doit être liée en gerbe. 7. L'ivraie esther destinée à être brûlée. 8. Le blé esther destiné à être amassé dans le grenier du propriétaire. Remarquez que les deux semences peuvent pousser côte à côte jusqu'au moment de la récolte. Puis il doit se produire une séparation. D'abord, on amassera la semence interposée que l'ennemi a semée. L'ivraie sera amassée en premier. Arrachez d'abord l'ivraie. Éliez-la, déo, et mettez-la en gerbe pour la brûler. Jésus utilise le mot déo pour décrire le fait de lier en gerbe, qui estère un processus. Le mot déo signifie en réalité lier en mettant sous obligation. Donc on voit qu'il doit y avoir un processus, qui lie les gens ensemble en utilisant l'obligation. Obligation que nous savons être l'organisation. C'est Esther pourquoi Dieu estère contre l'organisation. Or, ce liage en gerbe est nécessaire pour garder sous contrôle l'assemblage de l'ivraie. Et de placer les gens sous des obligations les éloigne de la parole. On voit que s'estère l'organisation autour d'une chose autre que la parole qui lie les gens, les empêchant ainsi de chercher plus de lumière que ce qu'ils ont dans leur église. Cela se fait par le biais de programmes, etc. Observez chaque grande église et vous verrez que les gens néhémis se contentent pas de venir entendre un ministre prêcher. Mais à la place, vous trouverez de nombreux programmes, sans parole. Comme principale raison de se rassembler, surtout aujourd'hui dans les mouvements des jeunes, comme dans toutes les activités qui les rassemblent. Des programmes sportifs, des programmes musicaux, des pièces de théâtre, etc. Tous les marques de l'organisation. Donner un but commun à ses membres. Plus la congrégation est grande, plus il y a de programmes, pour que les gens sentent qu'ils font partie de ce qui se fait. Une fois que l'ivraie est liée, Jésus nous dit ensuite qu'elles sont liées en gerbe. Maintenant en utilisant le mot gerbe, Jésus nous dit qu'il y a une certaine caractéristique identifiable concernant ce liage. Bien que le mot gerbe est un mot qui peut signifier lié, cependant Jésus a utilisé deux mots, différents pour décrire le processus qui, selon lui, se produit. Jésus dit que les moissonneurs les lieront en gerbe. Il n'a jamais dit en une seule gerbe, mais en gerbe, au pluriel. Ce qui veut dire plus d'une gerbe. Ainsi, nous voyons que le mot gerbe définit davantage le processus selon lequel ces ivraies doivent passer. Avant qu'elles n'aient mis soit prête pour le feu. Elles sont d'abord liées puis mises en gerbe. L'usage du pluriel nous dit qu'il y aura beaucoup de gerbes différentes. Tout comme nous voyons qu'il y a beaucoup de dénominations différentes. Elles doivent être amassées en premier. Cet assemblage pourrait suggérer un assemblage très lâche. Mais en ajoutant le mot gerbe pour définir davantage ce processus de liage, Jésus nous montre que la forme, la symétrie et le but seront impliqués dans la façon dont elles seront présentées pour le feu. Une gerbe n'est pas simplement une collection désordonnée de morceaux de bois mis ensemble dans n'importe quelle direction. Non. Au contraire, une gerbe nous suggère que toutes les ivraies de chaque gerbe seront alignées les unes sur les autres. Elles seront toutes orientées dans la même direction. Leur union en une gerbe ou liage en fera le moyen le plus efficace par lequel ils sont brûlés. Et ainsi nous voyons comment l'organisation Esther le moyen par lequel l'ivresse a rassemblé et rassemblé ensemble. L'Église est d'abord liée par une fausse parole, puis s'organisant autour de cette fausse parole. Il rassemble, s'Esther à dire, lit en gerbe les gens dans un moyen plus efficace et plus fructueux par lequel tout le groupe Esther prêt pour être jeté au feu. Ainsi nous devrions voir clairement que la fausse vigne Esther l'Église organisée. Car l'organisation Esther ce qui les lie ensemble. Puis, ceci étant, les principaux attributs de la fausse vigne seront sa capacité à s'organiser en nombre et à utiliser ainsi l'efficacité pour prêcher leur faux évangile. Maintenant, une gerbe Néhémie représente pas une organisation lâche, mais une organisation qui a une structure et une symétrie. Chaque morceau de bois va dans la même direction, et elles sont là pour le même but, et elles doivent se conformer à une certaine norme afin de s'intégrer dans la gerbe. Maintenant, voyons si ce n'est pas exactement l'image dont Jésus lui-même parle concernant les deux semences. Matthieu 13.36 Alors il envoya à la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dire, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » 37 Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est Esther le fils de l'homme. » Jésus Esther appelé 84 fois par le titre « fils de l'homme », ce qui Esther plus que tout autre titre utilisé pour lui dans la Bible. Ce titre de « fils de l'homme » signifie « prophète ». On voit donc qu'un prophète viendra, semant la semence. 38 Le champ. C'est Esther le monde, la bonne semence. Ce sont les fils du royaume, l'ivraie. Ce sont les fils du malin. 39 L'ennemi qui l'a semé. C'est Esther le diable, la moisson. C'est Esther la fin du monde, les moissonneurs. Ce sont les anges. Messagers. 40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu par les messagers de l'ivraie, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, ceux qui feront trébucher les autres et ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui savent faire ce qui est juste mais n'aimé le feront pas. 42 Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La période de tribulation. Ainsi, nous voyons la trame du temps de la fin. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Or, dans les épîtres de Paul, on nous parle de deux types d'enfants, les enfants obéissants et les enfants de la désobéissance ou de la rébellion. 1 Pierre 1.14 Comme des enfants obéissants, Néhémie vous conformez pas aux convoitises que vous aviez, autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Éphésiens 2.1 Et vous qui la vivifiez, par la nouvelle naissance, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, deux dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 5.6 Que personne n'ait mis vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colossiens 3.6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ils sont également connus dans la Bible comme les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5.5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'émissons point de la lune ni des ténèbres. Éphésiens 5.8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, comme des enfants de lumière. Jean 12.36 Pendant que vous avez la lumière, croyant la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Matthieu 8.12 « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et bien sûr, les enfants des ténèbres sont bien plus sages dans les voies du monde que les enfants de la lumière. Luc 16.8b car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que n'aimés le sont, les enfants de lumière. N'ayez pas peur. C'est Esther Moilin 23 janvier 61-34 Eh bien, ça a dû être à ce moment que Satan a regardé par-dessus le sommet de la colline après la tombée de la nuit. Satan a peur de la lumière. Tout démon a peur de la lumière. C'est Esther juste. Toutes les méchantes créatures rampantes ont peur de la lumière. Prenez un animal sauvage dans les jungles d'Afrique, ou plutôt allez là à la chasse, faites jaillir les lumières, et ils disparaissent. Ils ont peur de la lumière. Prenez un vieux cafard sale, jetez le trognon d'une pomme quelque part par terre, lorsqu'il fait sombre. Il viendra là pour grignoter. Allumez simplement la lumière et voyez-le détaler pour se cacher. Certainement. Les araignées et tous les autres insectes vont fuir. Ils ont peur de la lumière. C'est Esther la raison pour laquelle les gens ont peur de ces réunions du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Les enfants des ténèbres agissent dans les ténèbres. Les enfants de la lumière marchaient dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui Esther bâtit sur une colline. Néhémie mettait donc pas un boisseau dessus. Voyez-vous? L'unité dit 11 février 62-69 Jésus a dit que les enfants de ce monde, ou plutôt, le royaume de ce monde Esther beaucoup plus habile, les enfants des ténèbres le sont plus que les enfants de la lumière. Discerner le corps du Seigneur Mère 12 août 59-28 Le peuple de Dieu n'a jamais été constitué de grands intellectuels. La Bible dit que dans ce monde, les enfants des ténèbres sont plus prudents que les enfants de la lumière. Dieu a comparé son peuple aux brebis. Ils n'aiment ils sont pas habiles et intelligents. Il les garde tels qu'ils sont afin qu'ils puissent les conduire. Si vous essayez d'utiliser votre propre pensée intellectuelle, vous pouvez vous excluer Dieu à l'instant même. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais Esther un grand jour intellectuel, celui dans lequel nous vivons. Or, juste parce que les enfants des ténèbres sont plus sages dans les choses du monde que les enfants de lumière, Néhémie signifie pas que les enfants de la lumière Néhémie seront pas conscients des intrigues du diable et de son plan visant à organiser son église. Dieu donne à sa semence la révélation pour qu'elle connaisse sa volonté. Par conséquent, ce n'est pas à quel point nous sommes intelligents, mais combien Dieu nous en a révélé. Hébreux chapitre 7. Indime 15 septembre 57 S29 Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière. Et les, nous qui, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et puisse Dieu qui avait agi en faveur d'Abraham, lequel devait hériter la terre. Et il dit, je n'ai cacherai pas ces choses à l'homme qui va hériter la terre. Combien plus révélera-t-il ces, secret à son église qui va hériter la terre. Regardez à l'invisible 23 octobre 58-19 Alors si nous n'aimions marchions que par la vue, nous serions donc évidemment des enfants des ténèbres. Mais je suis heureux de savoir qu'il y a une lumière qui brille dans le cœur de chaque croyant pour ce jour éternel où Jésus viendra. Par conséquent, nous comprenons mieux ce que l'apôtre Paul nous disait lorsqu'il parlait des enfants, de la désobéissance. Ils étaient désobéissants parce que leur compréhension s'était obscurcie. Éphésiens 4.18 Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et remarquez que l'apôtre Paul n'a pas dit qu'ils étaient des enfants rebelles, mais il les a appelés les enfants de la rébellion ou de la désobéissance. Autrement dit, ce sont des enfants qui ont été amenés dans ce monde par un acte de désobéissance. Ainsi, ils étaient le produit de la désobéissance. Et si produit de la désobéissance, ils sont la semence de la désobéissance. Nous savons maintenant que la vie de la semence illustrée ici dans cette parabole parle de personnes réelles, des enfants de Dieu et des enfants du méchant semés par le diable. Ce sont des semences du serpent, comme Jean nous le dit dans 1 Jean 3.12 et Néhémie par ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Maintenant, si Caïn était le fils d'Adam, alors Jean n'aurait jamais pu dire des mots aussi durs et critiques contre lui, parce qu'Adam était le fils de Dieu. Mais nous savons que Caïn fut conçu par la volonté désobéissante d'Ève avec le serpent. Docteur, George Oreker Berry, dans son Interlinear Brevinglish Old Testament, Genesis Exodus, version de l'Ancien Testament, de la Genèse à l'Exode, Interlinéaire hébreu-anglais, nous montre que la traduction linéaire littérale de l'hébreu n'ache à Esther le mot séduire. D'autres traductions citent Ève comme disant, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Maintenant, si nous choisissons d'utiliser le mot subjuguer ou séduire, ils ont tous les deux le même sens. La concordance Strong définit ce mot hébreu comme la racine primitive d'induire en erreur ou détourner quelqu'un du droit chemin. Tromper mentalement ou séduire moralement. Webster nous dit que le mot séduire signifie persuader quelqu'un d'avoir des rapports sexuels illicites, en particulier pour la première fois. Vous, Néhémie, pourrez jamais parvenir à une compréhension complète et claire de la prédestination et de l'élection jusqu'à ce que vous voyez les deux côtés de la pièce. Paul nous le dit clairement dans le livre des Romains au chapitre 9. Ici, il parle de Jacob et d'Ésaü, tous deux nés des mêmes parents, et pourtant l'un était un vase d'honneur, ordonné à être un vase d'honneur, et l'autre un vase de déshonneur. Paul nous fait savoir qu'avant même que les enfants soient nés, afin que le dessein d'élection subsistât, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Romains 9.11, car, quoique les enfants nés fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal acquis, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. 12 Il fut dit à Rebecca, la jeunesse sera assujettie au plus jeune. 13 Selon qu'il Esther écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. 15 Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est ainsi donc. Cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité un dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce ce qui résiste à sa volonté? 20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? 22 Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. 23 Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Scofield reconnaît la ressemblance très proche de la stature humaine que possédait le serpent édénique en Éden et l'a noté dans ses notes sur la malédiction. Si vous remarquez, le serpent était une créature qui se tenait debout avant la malédiction. Genèse 3.14 L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, voilà partir les jambes et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, or cela nous fait savoir que le serpent avait une semence, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » 16 Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Maintenant, pourquoi Dieu maudirait-il la femme en âge de procréer, si c'est une pomme qu'elle a mangée? Qu'est-ce que les pommes ont à voir avec cette malédiction dans la conception? Une autre chose que nous pourrions considérer, pour comprendre cette doctrine de la semence du serpent, c'est qu'il y avait deux arbres dans le jardin. Au paragraphe 17 du sermon de frère Branham La Préparation Mère 11 novembre 53 où il dit, 17 dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'un était la vie, l'autre, la connaissance. L'homme a quitté l'arbre de la vie, pour manger de l'arbre de la connaissance. Genèse 1.11 Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 11 et 12, nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Ce mot espèce dont il est question au verset 12 est un mot hébreu mi-eil-ester prononcé Michéin. Le mot signifie espèce et se réfère à la nature. Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou sa nature. Par conséquent, la loi de Dieu de la reproduction est totalement contre l'hybridation. Car l'hybridation réunirait deux espèces ou deux natures différentes et produirait une vie qui n'est pas naturelle. Ensuite, nous pouvons voir que la loi de Dieu de la reproduction est censée être une loi protectrice qui préserverait l'espèce ou la nature qu'il a placée dans la semence. Maintenant, jusqu'ici, nous voyons aussi dans ces deux versets de la Bible que Dieu a placé ses semences sur la terre à ce moment-là par sa parole parlée. Elles n'y sont pas encore plantées dans la terre mais la Bible dit clairement qu'ils sont sur la terre. Maintenant, nous savons que vous, Néhémie, pouvez pas voir la vie. Parce que la vie est un esprit. Mais chaque vie a des attributs et des caractéristiques qui peuvent être vues, ou ressenties, ou entendues, ou goûtées. Des attributs tels que la couleur, le parfum, la texture, la taille, la hauteur, la largeur, le rythme de croissance, etc. Par conséquent, la vie elle-même est un esprit. Mais elle doit habiter un corps pour devenir visible. La vie est un esprit et ainsi elle est invisible. Et Néhémie peut être vue que par les nombreux attributs et caractéristiques qu'elle présente. Quand Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'il a placées sur la terre étaient encore sous forme d'esprit. Il n'y avait aucune manifestation de ces semences à ce moment-là. Mais la parole de Dieu a tracé la voie ordonnée par laquelle ces semences devaient se multiplier. 11 Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres, fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres, donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Or, il semblerait ici que la reproduction ait déjà lieu, mais n'en est-il rien. Du moins pas dans le sens visible du terme, car nous verrons plus loin au verset 14-15 que le soleil n'est-il pas encore créé, et s'il n'y a pas de lumière du soleil, aucune vie n'est émise, peut se manifester sur la terre. Genèse 1.14 Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, 15 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. De plus, nous verrons aussi dans Genèse 2.1-2 que ces semences doivent être plantées dans la terre et quand elles seront plantées dans la terre, alors elles crocheront de la terre comme la loi de Dieu le dicte au verset 12. Remarquez au verset 12 que la terre doit produire. Cela nous dit que les formes visibles qu'elles prennent sera parce qu'elles utilisent la terre, le potassium, la potasse, le calcium, le carbure et d'autres éléments qu'elles prennent pour former le corps à travers lequel la vie spirituelle s'exprime. Cela signifie qu'elles devraient sortir de la terre, mais à ce moment-là, les semences n'est émises sont que sur la terre. Elles n'ont pas encore été plantées dans la terre. Mais nous voyons au verset 12 l'ordre dans lequel elles doivent sortir. Ainsi, nous voyons ce qui suit. Numéro 1, dans Genèse 1.11. Nous voyons la parole parler, le logo, sortir et produire des semences. Numéro 2, ces semences, logo, sont placées sur la terre. Numéro 3, elles attendent d'être plantées afin d'entrer en manifestation sur et de la terre. S'est-il alors l'ordre dans lequel elles doivent sortir? Alors si nous lisons attentivement le chapitre 1, nous voyons tous les animaux et toutes les créatures, de la mer être prononcée à l'existence et puis, finalement l'homme. Genèse 1.20 Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. 24 Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26 Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit, voici, Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui estère à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant eu du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Maintenant, si nous continuons à lire au chapitre 2, nous découvrirons qu'il ne s'agit pas d'un autre récit de la création, mais une continuation du même récit de la création. Dans le premier chapitre, nous Néhémie voyons que la parole parlait de Dieu sortir et être prononcée à l'existence des êtres spirituels. Mais au chapitre 2, nous voyons Dieu revêtir ces êtres spirituels de la poussière de la terre. Genèse 2.1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. De Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. 4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, remarquez ce mot origine Esther utilisé. Sester un mot hébreu, Toulda prononcé Toléou, et signifie les événements, ou le récit de ou les résultats de la création. 5 Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est mis germain encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Maintenant, je veux que vous remarquiez alors que nous n'avons qu'un récit de la création, jusqu'à ce point, de la vie de la parole parlée, la vie spirituelle de chaque semence et de chaque animal. Nous savons que c'est vrai, parce qu'on nous dit que ce récit des événements Esther avant qu'il n'ait mis soit sur la terre. 5 Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'ait mis germain encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. 6 Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. 7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Maintenant, au chapitre 1.26-27, nous voyons que Dieu avait déjà créé l'homme à son image. Maintenant, remarquez ici que jusqu'ici, Dieu avait créé l'homme à son image. Et nous savons que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, car c'est ce que Jésus nous a dit de lui-même dans Jean 4.24. Maintenant, nous voyons dans Genèse 1.26 Dieu le dire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et au verset 27 Dieu accomplit ce qu'il a dit. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa. Ensuite, au chapitre 2, nous voyons Dieu revêtir l'homme de la poussière, lui donnant la manifestation. Cet Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Avant d'aller plus loin, clarifions quelques points ici. Dieu parle et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, à qui parle-t-il ici? Il dit, faisons. Et puis il dit notre image. Qui est-elle l'image de Dieu pour commencer? Hébreux 1.1-3 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, de Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ou l'éclat de sa gloire, et l'image expresse de sa personne, l'image exprimée, ou le rayonnement ou l'estampe de Dieu, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 4 Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es Aïe mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » 6 C'est lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. 7 De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Et la version amplifiée dit de lui, il est l'unique expression de la gloire de Dieu, l'être de lumière, le rayonnement du divin. Et il est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu. Hébreux chapitre 1 mer 21 août 57 129 Maintenant, voici ce qui arriva. Oh! Excusez-moi. Je suis arrivé juste à ce. Cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Voyez-vous? Le logo. Et cette grande fontaine. Cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit. A commencé à prendre forme dans la création. Et le logo qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps, et ce corps était comme celui d'un homme. Dans le sermon, questions et réponses sur la Genèse mer 29 juillet 53-22 de Dieu sortit le logo, lequel était le Fils de Dieu, puis du logo qui était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Du logo sortit le l'homme. 23 Oh. Une belle image me vient à l'esprit, maintenant. Si vous pouviez faire un petit voyage avec moi. Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais Sester pour rendre sûrement la chose plus explicite pour vous. Maintenant, faisons un petit voyage et revenons en arrière pendant un petit moment. Bien. Néhémie faites pas cas de la chaleur qu'il y a. Fixons nos pensées juste sur ce que nous allons dire et pensez-y maintenant. 24 Reculons de 100 millions d'années, avant qu'il y eût même une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le monde. Bon. Il y eut un temps où il n'y avait rien ici. Tout n'était qu'éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. 25 Sortons maintenant et tenons-nous sur le bord de cette rampe. Jetons un coup d'œil et voyons ces choses arriver. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne n'aimé peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous? Très bien. Personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. 1 Jean. Voyez-vous? 27 Bon. Remarquez maintenant. Il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité, il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On n'y peut rien voir, on n'y peut rien entendre, il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien. Pas d'air. Rien. Et pourtant Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant suivons attentivement pendant quelques minutes. Et au bout de quelques temps. Personne n'a jamais vu cela. Bon. Ça. Sester le père. Sester Dieu. Le père. 28 remarques et maintenant. Puis quelque temps après. Je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme. Comme un petit halo. Ou quelque chose comme cela. Vous n'aimez pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Maintenant. 29 mais suivez maintenant. Pendant que nous sommes en train d'observer. Toute l'église. Maintenant. Nous sommes debout sur une grande rampe observant ce que Dieu fait. Et nous en arriverons directement à cette question-ci et vous verrez comment il introduit cela. 30 bon. Personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas. Que nous voyons. Qu'est-ce? C'est-ce ce que les lecteurs de la Bible appellent le logo loin? Ou l'onction? Ou le? Comme j'allais le dire. Cette partie de Dieu commence à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'était une petite, faible, une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. 31 maintenant. Dieu donna lui-même naissance à son fils qui exista avant qu'il y ait même un atome dans le, ou de l'air pour faire un atome. C'était. Voyez. Jésus a dit, glorifie-moi. Père. De la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez. Tout là-bas en arrière. 32 bien. Dans Saint. Jean 1. Il a dit, au commencement était la parole. Quand le premier. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Observez bien maintenant comment il le fit. 33 maintenant. Retournons donc là en arrière. Au moment de l'apparition de ce petit halo. Maintenant. Nous n'y voyons encore rien. Mais juste avec les yeux du surnaturel. Nous voyons un halo qui se tient là. Bon. C'est le Fils de Dieu. Le logo. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père. Dans toute l'éternité. Voyez-vous? Bon. Et alors dans la conception de son plan. Il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire, que la lumière soit. 34 Et quand il lui dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. Il a tourbillonné pendant des centaines de millions d'années, formant des scories, brûlant, prenant la forme qu'il a aujourd'hui, brûlant toujours, faisant encore éclater des atomes. Si jamais on faisait exploser une bombe atomique, la chaîne atomique prendrait. Cette terre deviendrait comme le soleil, là-haut, explosant et détonnant tout simplement. Et si vous vous tenez sur une autre planète et que de là vous regardiez ici, ceci paraîtrait comme un autre soleil où les atomes seraient en train de brûler cette terre. Si jamais cette réaction en chaîne venait à se déclencher, elle se mettrait à tourner, à tourbillonner comme cela. Ces grandes flammes dont la chaleur atteint des milliards de degrés Fahrenheit s'échappent de ce soleil jusqu'à des millions et des millions de kilomètres. 35 bon. Suivez attentivement ceci maintenant. Que c'est-ce beau. Bon. Il fit le soleil. Et alors? La première chose. Vous savez. Un gros morceau de scorie pesant, à peu près gros comme cette terre. S'en est détaché. Faisant fiou. Bon. Alors ce logo. Le Fils de Dieu. L'observe. Il le laisse tomber pendant une centaine de millions d'années, puis il l'arrête. Puis, un autre morceau se détache, et il le laisse voler tomber pendant des millions d'années, puis il l'arrête. Nous sommes là maintenant en train de voir cela venir à l'existence. 36 Il a donc quelque chose dans sa pensée, Et que fait-il? Il a écrit sa première Bible. La première Bible que l'homme ait consultée, c'était les étoiles, le zodiaque. Et Sester imparfait. Juste. Il concorde avec cette Bible-ci. Le premier signe du zodiaque Esther la Vierge. Esther ce juste? Quel Esther le dernier signe du zodiaque? Léo. Le lion. À sa première venue, Jésus vint par une vierge. La seconde fois, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Voyez-vous? Il a écrit tout cela dans le ciel, l'âge du cancer, et ainsi de suite. Il a donc placé tout cela dans le ciel, a déployé cela là, tous ces météores, ces morceaux de terre ou de soleil, suspendus là. 37 Alors, quand la science va rechercher ces projectiles qui tombent, cela Néhémie réfute pas Dieu. Pour moi, cela Néhémie fait que le prouver. Voyez-vous? Ça rend simplement la chose plus évidente. Maintenant, remarquez donc tous ces projectiles qui s'étaient détachés de ce soleil brûlant, et qui sont allés là dans l'espace. Bien sûr, ils se sont regroupés, et la première chose, vous savez, cela commence à devenir un iceberg. Maintenant, revenons à la scène de la création. Nous prenons au chapitre 2 et au verset 8 « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. » Maintenant, arrêtons-nous ici juste un instant. Et j'aimerais que vous remarquiez que Dieu Esther est en train de planter maintenant. La Bible nous dit que Dieu plante, puis de la terre sort chaque arbre bon à manger et agréable à voir. Je peux m'imaginer toutes les couleurs et tous les arômes et tous les beaux fruits de ce jardin. Mais si vous remarquez attentivement, tous les arbres qui ont été plantés dans le sol par Dieu étaient bons à manger ou agréables à voir. Mais continuons à lire. Car nous constatons qu'il y a deux autres arbres qui se trouvent également dans ce jardin. Mais on Néhémie sait pas comment ils sont arrivés là. Car on Néhémie dit pas que ces deux-là sont plantés. 9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. Maintenant, sautons au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. 16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17 Mais tu Néhémie mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18 L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. 19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20 Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il n'y trouva point d'être semblable à lui. Maintenant, rappelez-vous, au chapitre 1, tout ce que Dieu a dit, toutes les formes de vie que Dieu a prononcées sont sorties sous une forme spirituelle seulement. Mais maintenant, Dieu les amène également en manifestation en les revêtant de la poussière de la terre. Par conséquent, souvenez-vous simplement de ceci. La parole Esther, la semence originelle. Maintenant, nous avons promis que nous examinerions d'où provenaient ces deux autres arbres. Comme vous l'avez vu au chapitre 2, Dieu a planté chaque arbre dans le jardin sauf deux d'entre eux. Ces deux arbres sont différents de tous les autres arbres, car tous les autres arbres ont été plantés, mais ces deux arbres n'ont pas été plantés. Alors, D'où viennent ces deux arbres? Et que où dirons-nous qu'étaient ces deux arbres? Maintenant, tout cela forme un arrière-plan. Nous en avons besoin pour comprendre les différentes formes de vie que nous étudierons dans cette mini-série des deux vignes, les deux vies et leurs deux natures. Afin de pouvoir distinguer deux choses, nous devons avoir un moyen de les catégoriser. Puisque la loi de la reproduction était que chaque semence naémie doit se reproduire que d'après son espèce, alors nous avons un principe. Et c'est-à-dire que, si chaque semence a une vie en elle, et que chaque semence naémie peut se reproduire que selon son espèce ou sa nature, alors nous devons examiner la nature de ces deux arbres qui n'ont pas été plantés et voir ce que leur nature nous dit d'eux. Après tout, dans n'importe quel domaine de la science, nous désignons les différences en fonction de ce que nous pouvons observer. Cela s'appelle des données empiriques, qui sont des données observables. Nous pouvons faire la différence entre un érable et un chêne par des données empiriques. La forme des feuilles, la nature de l'écorce, la forme de l'arbre, etc. Cette forme de science s'appelle la botanique, une branche de la biologie qui traite de la vie végétale, de leur structure, de leur croissance, de leurs caractéristiques et de leur classification. Par conséquent, si nous voulons comprendre les différences entre ces deux arbres, qui étaient dans le jardin mais qui n'y ont pas été plantés, il faut commencer par examiner leurs caractéristiques afin de pouvoir définir leur nature. Le premier arbre que nous examinerons est cet arbre de vie. Remarquez, son nom parle de la vie. C'est l'arbre de la vie. Maintenant, si nous voulons découvrir quoi que ce soit sur cet arbre, nous devons aller à la source de la vie, qui est Dieu lui-même, et puisqu'il est la parole. Alors si nous voulons découvrir cet arbre de la vie, nous devons aller à la parole de Dieu. Nous savons déjà que Dieu est la source de toute vie. Au commencement Dieu était une grande fontaine de vie, comme nous le voyons dans Psaume 36.9, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Nous découvrons aussi que Jean a également reconnu cet attribut de Dieu. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dieu était seul au commencement. Et en lui était la vie. Et alors qu'il a commencé à produire cette vie, elle est d'abord entrée dans son Fils. Ainsi nous voyons, Dieu, la grande fontaine de vie, a commencé à exécuter son grand plan afin de s'accomplir, et il a commencé cet accomplissement en donnant d'abord naissance à un Fils. Nous trouvons dans Jean 5.26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils, d'avoir la vie en lui-même. Maintenant, une chose que nous n'aimons devons pas oublier, il n'était pas interdit à Adam de manger de l'arbre de vie. Il lui était seulement interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Dans le livre de l'Apocalypse 2.7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Nous voyons donc que Dieu voulait que l'homme mange de l'arbre de vie, mais avant qu'il le puisse, il avait déjà mangé de l'arbre de la connaissance, et quand il a fait cela, il a dû récolter la promesse, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2.16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, 17 Mais tu n'aimes mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par conséquent, l'homme aurait pu manger de l'arbre de vie. Mais remarquez ce qui s'est passé après, qu'il ait mangé de l'arbre interdit de la connaissance. Genèse 3.22-24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal acquis. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. 24. Sester ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Par conséquent, Dieu a envoyé une épée de feu dans les mains des chérubins afin de conserver, protéger et garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme Néhémie pouvait pas manger de l'arbre de vie dans ces conditions déchues. Maintenant, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu grand-chose concernant cet arbre de vie. Nous savons qu'il a des caractéristiques essentielles de la vie et cette vie est venue de Dieu qui est la fontaine de vie. Mais pourquoi est-il décrit comme un arbre? C'est ce qui décourage les hommes dans leur quête de la vérité. Dieu utilise des types et des ombres. Et les hommes sont alors abandonnés à eux-mêmes pour déchiffrer ce qui n'est pas destiné à ce qu'ils sachent. Rappelez-vous dans Matthieu 13, Jésus a dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela Néhémie leur a pas été donné. » 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13. Sester pourquoi je leur parle en parabole. Il faut donc savoir ce que représente la symbolique de cet arbre. Psaume 1.1-3. Heureux l'homme, qui Néhémie marche pas selon le conseil des méchants, qui Néhémie s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui Néhémie s'assied pas en compagnie des moqueurs, deux mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage Néhémie se flétrit point. Maintenant, il Néhémie fait aucun doute que la Bible parle métaphoriquement des hommes en tant qu'arbres. Nous avons trouvé cela dans le psaume 1er, où un homme juste est comparé à un arbre qui est planté près de courants d'eau, et nous le trouvons aussi dans le livre de Jude où il fait allusion à l'homme naturel. Jude 1.10. Au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Et on voit que les arbres représentent les hommes en général, comme on le voit dans Marc 8.22. Ils se rendirent à Bethsaida, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. 23. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. 24. Or il le regarda, et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Mais alors qui est-ce l'arbre de vie? On trouve notre réponse dans le livre de Sages 53.1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Maintenant, tous les lecteurs de la Bible savent que cela parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous voyons alors qu'il est l'arbre de vie qui était dans le jardin. Alors qui était cet autre arbre? L'arbre de la connaissance? Eh bien, nous avons déjà vu dans le livre de Jude que ce qu'on appelle des brutes et des bêtes sont également appelés des arbres. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur à eux. Ce sont des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Par conséquent, si la Bible parle des hommes, les justes et les injustes, comme des arbres. Alors, s'ils sont des arbres, il faudrait qu'ils descendent d'arbres, car chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Maintenant, Néhémie pensait pas qu'il soit étrange que les hommes soient comparés à des arbres. Après tout, les hommes sont également comparés à du blé et à de l'ivraie, et aux herbes des champs. Mais pour cette étude, nous n'examinerons que la vue métaphorique des arbres, puisque nous avons affaire à ces deux individus dans le jardin d'Éden qui n'étaient pas plantés. Maintenant, frère Branham nous a enseigné que ces deux arbres étaient Christ et Satan. Dans l'exposé des sept âges, il dit, exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 103-102-2 arrivé là où nous en sommes. Je voudrais fixer votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir pourquoi il nous était nécessaire d'aborder la doctrine de la postérité ou semence du serpent comme je l'ai fait. Nous commençons avec le fait qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie était Jésus. L'autre arbre resta incontestablement Satan, à cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Une autre chose que nous devons comprendre est que, si un arbre était l'arbre de vie, alors l'autre appelé l'arbre de la connaissance était aussi l'arbre de mort, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. C'est ce que Dieu a dit. Nous entendons frère Branham nous dire la même chose dans le message, la piscine de Beth et d'Avin 11 août 50, 10 dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. L'un, c'était l'arbre de la vie. Si un homme mangeait de cet arbre, il vivrait pour toujours. Et l'autre, c'était l'arbre de la connaissance, lequel était l'arbre de la mort, l'arbre de la maladie. La foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes dîme 29 novembre 53 p. 42. Or, l'arbre de vie, je crois, c'était Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Il est l'arbre de vie. Exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 97. 97-4. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre, en général. Dans Nombre 24.6. En décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Dans toute la Bible, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume 1. L'arbre de vie doit donc être la personne de vie, qui est Jésus. 97-5 Et dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie, et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal acquis. L'homme vivrait par l'arbre de vie, mais Néhémie ne devait pas toucher à l'autre arbre, sous peine de mourir. Mais l'homme a quand même eu part à l'autre arbre, et à ce moment-là, la mort resta rentrée en lui par le péché, et il était dorénavant séparé de Dieu. 98-1 Or, cet arbre, là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean, chapitre 6-8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Il s'était rappelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham, et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive, et que si un homme buvait de cette eau, Il n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement. Il s'Esther montré comme le grand Je suis. Il Esther le pain de vie, la source de vie, l'éternel, l'arbre de vie. Il était là-bas en Éden au milieu du jardin tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. 98-2 Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste criait que la cognée était mise à la racine des arbres, il n'y parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans Jean 5.11. Il Esther dit, et voici ce témoignage, c'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie Esther dans son Fils. Jésus a dit dans Jean 5.40, et vous n'aimez vous voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi le témoignage, la parole de Dieu, dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle Esther dans le Fils. Elle n'Esther nulle part ailleurs. Et Jean 5.12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Or, puisque ce témoignage Néhémie peut pas changer, qu'en Néhémie peut rien en retrancher ni rien y ajouter, il reste donc que la vie Esther dans le Fils. Par conséquent, l'arbre du jardin, c'est Esther forcément Jésus. 98-3 Bon. Si l'arbre de vie Esther une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui Esther aussi une personne. Il n'aime et peut pas en être autrement. Ainsi, le juste et le malin se trouvaient là, côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juin 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.